Bon, mesdames, messieurs, merci pour votre présence. Nous allons donc, on va dire commencer ce qui sera la matière de cette investigation que nous poursuivons sur les gathas qui sont dites de Zarathoustra. Et je voudrais vérifier avec vous pour commencer, nous avions commencé à la fin de la leçon dernière, de vérifier quelles sont ces personnalités dont le nom est mentionné. Je vous disais que ces personnalités étaient, dans leur noyau dur, quatre, et encore la quatrième est un peu labile. Le premier nom mentionné, une fois dans chaque gatha, je vous le rappelle, est celui de Zarathoustra. Je le donne sans la petite difficulté phonétique que nous avons mentionné la fois dernière. Second terme, le nom du chameau. Le nom du chameau est un premier terme qui signifie que ces chameaux sont vieux. Donc c'est celui qui possède de vieux chameaux. Le second, Vishtaspa, Vishta plus Aspa. Aspa, le nom du cheval. C'est celui dont les chevaux n'ont pas de harnais. Il peut s'agir aussi d'un nom dépréciatif. Il y a un petit problème que je préfère mentionner, c'est un petit problème extrêmement tactile sur le sens des préverbes. Le verbe « ça », qui en gros veut dire « lié », est utilisé pour l'action qui consiste à atteler les chevaux. Alors, les dételer, comment dire? Eh bien, il y a deux possibilités qui sont attestées. Préverbe « ava », sanskrit « ava »,« avasa », ça veut dire « laisser tomber l'attelage », »,« laisser tomber ce qui sert à atteler ». Ça, là, il n'y a pas d'ambiguïté, ça réfère au repos. C'est le repos à l'étape du soir, comme l'a montré Nartain. On ôte l'attelage des chevaux, c'est le moment du repos. « Vie », c'est autre chose. « Vie », c'est autre chose. Ça pourrait très bien signifier celui dont les chevaux sont privés de harnais. Et là, c'est une autre idée. C'est des chevaux inutiles, des chevaux dont on ne peut pas se servir, parce qu'il est impossible de les monter et de les diriger correctement. Mais c'est une hypothèse que je dois, en toute honnêteté, signaler. Ce pourrait que Vishtaspa, comme Zarathoustra, soit un nom qui déprécie la richesse de celui qu'il porte, pour des raisons qui sont peut-être de superstition. Le troisième larron dans ces listes, qui est lui aussi permanent, c'est un de ces noms permanents, lui, au contraire, porte un nom extrêmement valorisant. Feracha, ce qui est remarquablement beau, ce qui est parfait, et le nom du chameau aussi, comme Zarathoustra, celui dont les chameaux sont en pleine forme, quoi. Hein, celui qui a des chameaux en pleine santé. Alors, plus discret, un personnage qui s'appelle Jama, adjectif aussi, avec le nom du cheval. Vous voyez, on rôde toujours dans les seconds termes qui représentent la richesse en cheptel animal. Donc celui dont les chevaux sont dépréciatifs aussi, ces chevaux sont brûlés par le soleil, ils sont déshydratés. De certaine façon, Jama est un peu l'antonyme de Fracha. Voici comment cette configuration se présente. Alors maintenant, est-ce que l'ascendance familiale de ces hommes nous est donnée? Dans deux cas seulement, deux qui valent pour trois. Zarathoustra, il semble que son père, qui est mentionné, mais non pas comme quelqu'un de présent, et on le mentionne comme patronymique, son père s'appelle Haichataspa. On peut le présenter sous cette forme, Haichataspa. Donc, un nom, aussi avec le nom du cheval en second terme. Quant à Haichat, on y reconnaît un verbe, je vous donne sa forme sanskrite, le verbe sitch, hitch en iranien, sinchati. C'est un acte rituel ou un acte parfaitement banal, parfaitement profane, qui consiste à asperger avec un liquide. Donc, celui qui asperge les chevaux, soit pour les laver, peut-être quelque chose comme cela. Mais je pense qu'ici, vous voyez que la formation ne correspond pas. Sinchati, c'est un présent à un fixe nasal. Ce n'est pas la forme qui est présente dans le premier terme de composé que nous trouvons ici. Or, il y a une variante, une construction thématique verbale différente qui est sechaté, le verbe est moyen. Et là, le thème de présent correspond parfaitement à celui de Haichataspa. Et le verbe sechaté, c'est un moyen, ça veut dire que l'action est réfléchie, c'est s'éclabousser. Et ça peut faire référence au fait qu'un cheval qui galope ou qui simplement trotte sur la terre mouillée s'éclabousse. Donc quelqu'un dont les chevaux sont sales. Ils ont servi aussi, ils ont voyagé, ces chevaux-là. Je vais y revenir. Alors, nous ne savons pas, Vishtaspa, si on s'en remet au seul gata, il n'a pas de nombril. Il n'y a pas de mention. Ces deux-ci, les deux suivants, ils sont frères. Leur patronymique renvoie à un père qui s'appelle Hugu. Oh, c'est un nom très simple. Hu, ce qui veut dire bon, bien, beau. Et puis le nom de la vache. Voilà la troisième membre de la triade animale qui est introduit avec le père des deux frères, Hugu, celui qui a de belles vaches, simplement. La configuration familiale est, je vais dire, complète de cette manière. Sauf que dans le cas de Zarathoustra, son insertion dans un ensemble social plus vaste que la famille linéaire, le nom de son père, est aussi donnée. Et là, contrairement à ce que vous lirez dans beaucoup de manuels sur l'onomastique iranienne, je vais avoir une réaction extrêmement sceptique. C'est un mot que je ne comprends pas. C'est spitama. Je ne le comprends pas, je vais dire, par une honnêteté fondamentale vis-à-vis de la difficulté que pose ce mot-là. En apparence, ce n'est pas difficile. C'est celui dont l'ama, c'est-à-dire la force offensive, serait spita, c'est-à-dire blanche. Peut-être référence à l'éclair d'orage. Mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas bien parce que moi, je suis obligé de le constater. Je fais attention à ces détails. Beaucoup d'analystes des gathas ne l'ont pas fait. C'est un choix assez curieux. Mais c'est un débat qui pourrait avoir lieu entre eux. Pourquoi y prêter attention, ne pas y prêter attention? C'est qu'un nom comme cela, c'est le cas de ces deux noms-ci, c'est quatre syllabes. Il y a peut-être formation ici, à l'interstice des deux membres de composé d'une diphtongue, mais non. Les deux membres gardent leur autonomie dans le contact, dans le sandhi, comme on dit, compositionnel. Frasha, ushtra, c'est quatre syllabes. Pas frasha, ushtra, en trois syllabes, non. Alors, spita, ama, devrait comporter quatre syllabes, mais il en comporte trois. Alors, je ne suis plus, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette analyse est possible ou pas. Mais c'est invariable. Dans toutes les attestations, le nom tribal de Zarathoustra, qui est Spitama, on ne peut pas le décortiquer en composé. Et dès lors, je crois que l'honnêteté nous impose de garder un certain doute quant à l'interprétation traditionnelle et apparemment facile. Alors, y a-t-il autre chose? Oui. Il y a un petit problème. C'est l'homme sans nombril. C'est Vishtaspa. Est-il absolument sûr que son incidence familiale ne nous est pas donnée? Ici, je demanderais peut-être que nous puissions voir le Yasna 53.2. C'est l'énumération des noms propres de la dernière gatha. Elle est très brève. Elle ne nous apprend pas grand-chose, sauf que nous allons voir qu'il y a ici, selon l'analyse qui était traditionnelle avant 1980, pour des raisons évidentes, c'est pas Pirard et moi qui avons remis les choses en place, nous n'avons fait qu'appliquer une découverte. Mais regardez le troisième vers. Kavacha Vishtaspo, le nom de Vishtaspa au nominatif singulier, avec son titre de Kavi. Donc le Kavi Vishtaspa, nous parlons de Kavi tantôt. Et puis, il y a aussi un élément, il y a trois parties au vers, Zarathustrisch Spitama. Voilà, un Spitama. Un Spitama. Et il est dit Zarathustri. Ça, c'est un patronymique formé sur Zarathustra. Il s'agit donc du fils de Zarathustra. Fils de Zarathustra Spitama. Deuxième élément apparent. Puis le nom de Frashaustra. Frashaustra, le premier des fils de Hugu. Combien y a-t-il de personnes ici ? Ben, consultez les traductions qui ont précédé la nôtre. On considère en général qu'il y a trois personnes. Le Kavi Vishtaspa, bien sûr, puis un fils de Zarathustra, membre de la tribu Spitama, mais dont on ne nous donne pas le nom personnel, ce qui est déjà un peu curieux, et puis Frashaustra. Je vous ai parlé déjà une fois ou l'autre, c'était une des raisons pour lesquelles il nous semblait falloir reprendre l'analyse syntaxique des gathas. En 1982, est paru le livre de syntaxe védique de Jared Klein. Et Jared Klein a fait le relevé tout à fait exhaustif des configurations possibles de la particule de coordination dans le Rig Veda. Donc, partons de l'hypothèse admise qu'il y a ici trois personnes. A, c'est Vishtaspa avec son titre. Il porte la particule de coordination, cha. Puis un fils, personnage B, qui ne porte pas la particule de coordination. Enfin, le troisième personnage, Frashaustra, coordonné. Il y a donc en principe trois personnes. Ce n'est pas gênant, la particule de coordination n'est pas répétée chaque fois, oui. Mais cette configuration-là, on ne la trouve jamais. Absolument jamais. On peut trouver A, Cha, B, C. Hein? On peut trouver A, B, Cha. On peut trouver A, Cha, B, Cha, C. On peut trouver A, B, Cha, C, Cha. Mais ça, jamais. Alors, ben, nous l'avons appliqué strictement. Nous l'avons appliqué strictement. Et nous avons considéré que ce que ce vers nous apprenait, c'est que dans le cadre strict des gathas, Vishtaspa était le fils de Zarathustra et un membre de la tribu Spitama. Je n'ai pas bonne conscience avec ça. Hein. Je n'ai pas bonne conscience, si vous comprenez qu'on peut naturellement... On peut avoir des arrière-pensées, n'est-ce pas, devant une conclusion comme celle-là. Je dirais que, bon, je sais que par goût, je ne suis pas insensible au charme de la provocation. J'ai donc de bonnes raisons de me méfier de moi-même. Mais aussi, il y a le principe. Est-ce qu'une règle de grammaire subtile, découverte à l'oreille des années 1980, pas par un homme aussi subtil que Jared Klein, peut prévaloir contre une tradition massive qui présente le Kavi Vishtaspa comme quelqu'un qui n'est pas familialement attaché à Zarathustra. Je ne sais pas. Cela m'a laissé pendant très longtemps un certain sentiment de malaise dont je vous ai peut-être déjà entretenu, surtout au séminaire. Comment cela a-t-il été reçu par la critique ? Bon, bien sûr, comme une provocation, ça, c'était inévitable. Mais aussi, malgré tout, Helmut Humbach, par exemple, qui est assez sensible aux faits grammaticaux, a senti que la règle de Klein était incontournable. S'il y a une règle grammaticale, on doit l'appliquer. On ne peut pas faire des traductions fausses grammaticalement. Mais il a essayé d'adapter cela de telle sorte que la tradition ne soit tout de même pas réfutée. Et il a pensé qu'effectivement, dans ce vers, Vishtaspa était présenté comme le fils de Zarathustra, mais à titre moral, en quelque sorte. Donc il est son fils spirituel, en quelque sorte. Donc il accepte la règle grammaticale, mais il l'adapte à la tradition. Ce n'est pas impossible. C'est une idée qui m'a séduit dans un certain temps. Pendant un certain temps parce que un texte avestique récent, le Vishtaspiasht, qui se présente comme une conversation entre Zarathustra et Vishtaspa, enfin, mentionne, là-bas, Zarathoustra s'adresse à Vishtaspa en lui disant « Putra kava Vishtaspa »,« Fils kavi Vishtaspa ». Bien entendu, ce texte est avestique récent, ce n'est pas le fils physique de Zarathoustra, mais Zarathoustra s'adresse à lui en l'appelant « fils ». Il n'y a donc pas d'impossibilité, je vais dire, stylistique à ce que on ait ici une appellation qui se réfère à une pure filiation morale. Je serais tenté aujourd'hui d'être quand même, d'en revenir à une conclusion dure. Parce que tout de même, il semble bien que la tradition de l'Avesta récent soit... il y a une variabilité de la tradition sur l'ascendance de ces personnes. Zarathoustra lui-même, dans l'Avesta récent, son père ne s'appelle pas Haichataspa. Il s'appelle Purusha Aspa. Purusha plus Aspa. Donc celui dont les chevaux sont Paurusha, Parusha. En sanskrit, c'est un adjectif qui se réfère à une couleur de la robe des chevaux. En termes allemands, c'est Graugemischt. Je crois que c'est les chevaux pommelés en français, n'est-ce pas ? Donc c'est un terme d'hypologie tout à fait technique qui se réfère à la robe des chevaux. Je m'y connais pas du tout en chevaux, je peux pas vous dire. Mais ce qui me frappe dans cette variation entre Haichataspa et Purushaspa, c'est quand même que ces noms sont différents, mais sont à peu près synonymes. Ils se réfèrent à la tache, ils se réfèrent à l'apparence de tache que donne la couleur de la robe des chevaux. Donc, tout en étant dissemblables, ils ont quelque chose en commun, comme si c'était le choix d'un autre mot. C'est un peu vague, mais c'est cela. Or, Vishtaspa, lui aussi, n'est-ce pas ? Les traditions sur son ascendance paternelle sont variables, sont extrêmement variables. Dans l'Avesta, le père de Vishtaspa s'appelle Ahuruataspa. Celui dont les chevaux sont rapides, oui, dont les chevaux sont rapides, mais c'est l'épithète typique du soleil. C'est une épithète solaire. C'est la caractérisation tout à fait usuelle du soleil. Hovar Arvataspa, le soleil aux chevaux rapides. Dans les textes moyens perses, l'Oraspe ne provient pas d'Arvataspa, mais d'un nom que nous connaissons dans l'Avesta au féminin, c'est le nom d'une déesse, Druaspa. Donc Druva plus Aspa. La déesse Druva Aspa, qui a un yasht dans l'Avesta, est peut-être l'étoile polaire. Et d'ailleurs, son nom signifie très probablement celle dont les chevaux sont immobiles. Immobiles parce que, comme vous savez, l'étoile polaire ne bouge pas. Donc, Druva Aspa, le père de Vishtaspa, selon la tradition moyen-perse, serait celui dont les chevaux sont immobiles. Et ici aussi, cela compose avec Arvataspa un beau jeu d'opposition entre le soleil et l'étoile, entre l'immobilité et la rapidité, et aussi tout de même entre le monde nocturne de l'étoile et le monde diurne du soleil. Il y a un jeu d'opposition. Voilà, je vous ai fait part de mes soupçons. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant passer, après avoir tenté de définir du point de vue de l'onomastique pure ce que sont les hommes dont le nom est mentionné, nous allons faire le tour. Nous allons faire le tour des gathas pour voir ce qu'elles nous appellent. Ce qu'elles nous apprennent. Je voudrais vous faire une remarque générale. Nous allons commencer par la première. Je voudrais faire une remarque générale. Lorsque, en 1959, de manière décisive, Helmut Humbach a défini les gathas comme des hymnes et non comme des sermons, ce qu'elles passaient pour être jusque-là, il se fondait sur un argument général imparable. C'est que les gathas ne sont pas des parole qu'un homme adresse à des hommes, c'est la caractéristique des sermons, mais ce sont des paroles que un ou des hommes, car il y a parfois je, parfois nous, adressent aux divinités. D'une manière générale, le texte des Gathas est adressé aux dieux. On ne parle pas aux hommes. Il y a quelques passages curieux, d'ailleurs, dans l'énumération des noms propres, ce sera le cas. On dirait, là, il y a naturellement peut-être une situation relativement normale. Dès lors qu'intervient un groupe humain, il peut y avoir interaction entre les membres de ce groupe humain, ils peuvent s'adresser, échanger des paroles, c'est possible. Mais l'énumération des noms propres est à une exception près, qui est une invective contre les trompeurs, contre les adversaires. Ce sont les seuls passages éventuels où peut-être ou parfois on parle à des hommes. Donc ça c'est pour la remarque générale. Maintenant, nous allons vérifier ça pour commencer. Nous allons vérifier ce qu'il en est à cet égard dans l'énumération des noms propres. Et je crois que là, je puis tirer la conclusion tout de suite. Nous allons découvrir, mais de manière incontestable, c'est que ces énumérations de noms propres sont caractérisées par une extrême variabilité du point de vue de la personne grammaticale. Les dieux, c'est toujours la même chose. Ils sont évoqués à la troisième personne. Troisième personne du singulier, parce que seul Mazda apparaît dans le monde divin à la troisième personne. Ou ils le sont à la seconde personne. Et avec toujours cette fluctuation un peu étonnante entre le singulier et le pluriel, entre le « tu » et le « vous », lorsqu'on parle à Mazda, je trouve tout aussi étonnant, d'ailleurs, la fluctuation entre la deuxième personne et la troisième. Et ceux d'entre vous qui participent au séminaire savent bien que c'est quelque chose d'un peu perturbant lorsqu'on lit le texte gathique. Pourquoi changer en permanence le point de vue de la personne grammaticale ? Eh bien, cette variabilité, nous l'observons aussi dans les énumérations de noms propres. La première gatha, vous avez le texte, donc l'énumération des noms propres. Nous avons ici les... commence d'une certaine manière à la strophe 5, où aucun nom n'est encore mentionné, mais vous voyez le « nous ».« Vauroi maidi », puissions-nous écarter. Le récitant parle à la première personne du pluriel. Puis vient la mention du nom de Zarathustra. « Donne au Mazda », et alors c'est tout de suite le passage central qui a fait discussion, « Donne à Zarathustra et à nous ».« Donne à Zarathustra et à nous ». Donc, le « nous », c'est... Que faire lorsqu'on trouve une phrase comme ça ? Comment peut-on prétendre, en lisant une expression de ce type, que Zarathustra peut être le récitant ? Comment pourrait-il dire « je », un « je » qui n'est d'ailleurs pas mentionné, et un « je » qui n'est pas exclusif du « nous » ? C'est un vrai problème logique. Les traducteurs anciens l'avaient bien senti. Ils n'ont pu maintenir cette strophe et l'idée que Zarathustra est le récitant ordinaire, le récitant général des Gathas, qu'en faisant une exception. Lisez du chêne d'Imain, vous verrez ce qu'il fait. Brutalement, il mettra en parenthèse, avant la traduction de cette strophe-ci, l'assistance, de point, ouvrez les guillemets. Il ne peut pas faire ça. Moi, je n'ai pas ici un texte préparé pour une représentation théâtrale. Je sais que nous avons une énumération. Alors, est-ce qu'on peut comprendre « moi, Zarathustra », « donne à moi, Zarathustra » et « à nous ». Ça nous paraissait impossible. Ben, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que Helmut Hinz a découvert dans la... c'est l'Yasna 68-12, dans la Vesta récent, une situation sacrificielle, justement, où le directeur du sacrifice, vous connaissez bien le Hautar, eh bien, le Hautar dit « donne-nous », il parle aux eaux dans ce cas-là, « donnez aux, à moi le Zautar ». Mais attention, hein, « moi » est là. Le pronom est mentionné, il est là. « À moi le Zautar », et sa qualité aussi est donnée. Et à nous, les Mazdéens. Donc, en quelque sorte, il s'extrait du groupe des Mazdéens pour se présenter comme une personnalité particulière qui prend la responsabilité de la récitation à ce moment-là. Et alors la récitation continue. Strophe 7, l'énumération des noms, pardon, va continuer à la strophe 7. Donne à Vishtaspa et à moi. Vishtaspa et à moi. Cette fois-ci, le pronom est la première personne du singulier. C'est il, Vishtaspa et moi. Troisième mention, celui de Phrashaushtra. Je te fais, moi, ton adorateur, la très bonne demande pour Phrashaushtra. Nar, je laisse provisoirement de côté. Pour Phrashaushtra et moi. Donc, voici une structure, je crois, qui est la suivante. En apparence, toute discussion mise à part sur la mention de Zarathoustra, nous avons toujours la coordination d'un « il » avec un pronom de la première personne. Et d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire dans la strophe 7, dans la relative secondaire qui termine la strophe, ce « il » plus ce « je » se combine en « nous ». C'est « srevima » pour que nous entendions, pour que nous entendions. Et on trouvera dans la strophe 9, l'énumération des noms est terminée, mais en résumé, on nous dira, voilà, nous avons pris place pour la cérémonie, dans la cérémonie de vos éloges. Donc, l'union du « il » et du « je » se présente comme un « nous ». C'est une énumération, en définitive, à la première personne, étant donné qu'il y a cette synthèse toujours opérée entre le « il » et le « je », cette synthèse qui produit finalement un « nous ». Alors, nous ne continuerons pas par la deuxième gatha parce qu'elle est plus complexe, nous la réservons provisoirement. Passons immédiatement à l'énumération des noms de la gatha Spentamainyu, qui est la plus brève et qui, étrangement, ne mentionne pas le nom de Zarathoustra. Le nom de Zarathoustra est mentionné dans la gatha, mais pas dans l'énumération des noms propres directement. Un peu plus loin. Vishtaspa n'est pas mentionné. Les deux seuls noms mentionnés sont ceux de Phrashaushtra et celui de Dejamaspa. Mais nous allons voir aussi de quelle manière. Il semble donc que l'interpellation des hommes ici s'adresse à un groupe social plus restreint. D'ailleurs, cette situation sociale est présente. Elle est présente dans la strophe qui précède la mention des noms, dans la strophe 7. C'est quel est l'Aryaman, c'est-à-dire l'ensemble de la tribu? Quelle est la tribu? Quelle est la famille? Kwaitu. Ça, c'est le noyau familial restreint, n'est-ce pas, la famille linéaire. Qui donnera au clan quelque chose? Bon. Donc, il semble que ce soit un rite clanique pour un clan. Et la question posée d'emblée, c'est celle de ses rapports avec l'ensemble social plus vaste, la tribu est plus vaste que le clan, et son rapport aussi avec un ensemble social plus limité, plus petit, qui est la famille. Donc il y a, comprenez pas très bien, moi non plus, n'est-ce pas, mais visiblement c'est un rite restreint, qui est limité à un certain groupe social. Vous trouverez dans ce passage. Alors vient la mention du nom de Phrashaushtra, car effectivement, seuls les fils de Hugu seront mentionnés ici. Donne à Phrashaushtra et à moi. Voici à nouveau donc le il et un je, qui sont associés en coordination et qui se résolvent en une première personne du pluriel, en kama. Soyons des amis proches. Dans l'ultime vers de la strophe. Enfin, strophe 9, le nom de Jamaspa, mais au pluriel, comme si Jamaspa était évacué au profit de ses descendants, pas de ses fils, car le pluriel d'un nom propre, c'est ce à quoi il réfère. donc les fils de Djamaspa, ils attellent, troisième personne, eux, troisième personne du pluriel. Ils ont attelé leur daïna à l'équipage d'achat. Le nom de Zarathoustra, non seulement il ne précède pas, il n'est pas en première place, mais il faut un certain délai pour qu'il soit mentionné, et il sera mentionné dans la strophe 12. Donc il y a un espace de deux strophes entre l'énumération des noms propres et la mention du nom de Zarathoustra dans une strophe qui dit ceci: « Quelle est ta faveur pour Zarathoustra qui t'invite, qui fait l'invitation rituelle ?» Donc, une attestation apparente, en tout cas, n'est-ce pas, de troisième personne. Il peut être parfaitement arbitraire de restituer ici une première personne. Et puis, en parallélisme d'opposition, on répète la question, mais cette fois-ci pour quelqu'un qui se présente à la première personne. Quelle est ta faveur pour moi qui veut vous propitier par des louanges, ô Ahura Mazda, et qui vous fait la meilleure demande. Donc, c'est une interpellation, une énumération très courte, et vous voyez aussi les fluctuations du point de vue sont même internes. Une strophe de coordination entre la troisième personne et la première, et puis une strophe à la troisième personne essentiellement. Alors, nous allons en venir à la seconde yata. Elle est complexe, celle-là. C'est la gatha Ushtavaiti. La gatha Ushtavaiti, c'est avec le yasna 51, la plus longue des énumérations de noms propres. Elle fait appel, elle fait mention dans la 12e strophe d'une ascendance peut-être lointaine. Une ascendance peut-être lointaine et commune aux deux familles, aux fils de Haichataspa et aux fils de Hugu. Et c'est une tribu que nous connaissons dans la Vesta récente, ce sont les Friana, c'est-à-dire les lointains descendants d'un certain Friya. Friya, c'est un adjectif, l'indien Priya, amical. Et c'est de toute façon clairement comme ce que les spécialistes de l'onomastique appellent un nom court, c'est-à-dire un composé qui a été privé de son second terme. Donc on peut imaginer qu'il y avait un second terme qui exprimait ce dont. Celui qui, ou un animal, peut-être celui à qui les chevaux sont chers, etc., je ne sais pas, mais nous sommes privés du second terme, nous ne pouvons pas savoir lequel il est, mais ce premier terme était Fria, il a servi à former un patronymique. Donc peut-être y a-t-il ici mention, pour une fois, d'une très lointaine ascendance. Ensuite, autre particularité, deux strophes sont consacrées à Zarathoustra. Deux strophes sont consacrées à Zarathoustra. La 13e strophe le mentionne à la troisième personne du singulier. Si l'on veut absolument que Zarathoustra soit le récitant, ça n'est pas gênant, le troisième du singulier. Hein. Vous savez que, bon, on peut parler de soi à la troisième personne. Vous voyez Jules César ou De Gaulle, hein. Un auteur peut parler de soi à la troisième personne. Ce n'est pas gênant en soi. On m'avait reproché que je ne considérais pas cela, mais je le sais bien entendu, l'artifice littéraire qui consiste à parler de soi à la troisième personne est tout à fait acceptable. Mais je trouve beaucoup plus intéressant, dans un cas comme celui-ci, de montrer que c'est un jeu de variation, qu'il y a un jeu littéraire réel, pas qui consiste à jouer sur la perspective des personnes grammaticales. Donc la première strophe, « Spitama Zarathoustra » à la troisième. Strophe 14, la deuxième mention de son nom. Ah oui, à la deuxième du singulier. À la deuxième du singulier, ô Zarathoustra, qui est ton allié pour le grand Maga? Je n'ai pas traduit le mot Maga parce qu'il faudra que nous en parlions. Et dans la même strophe, cette fois-ci, est mentionné le Kavi Vishtaspa. Le Kavi Vishtaspa, qui est mentionné à la troisième personne. Voici le Kavi Vishtaspa au moment du Ya. comme si cette phrase était la réponse à la question « Qui est ton allié ?» Le kavi vishtaspa. Le ya aussi, terme technique que je n'ai pas traduit parce que cela demande un commentaire et ce n'est pas le sujet pour l'instant. Alors, quelque chose d'englobant, on s'adresse au pluriel à ce moment-ci, dans la strophe suivante, la 15e, au pluriel, à tous ceux qui sont les descendants de Haichataspa et qui sont bien entendu des Spitama. D'ailleurs, c'est tout de même, ce n'est pas décisif, mais c'est tout de même un indice aussi pour considérer que Vishtaspa fait partie de cet ensemble. Sinon, pourquoi l'avoir mentionné avant la mention générale de la famille et du clan ? Je veux vous dire, au Spitama, Haichataspa, etc., etc. Donc, un « je » s'adresse à des « vous », aux descendants de Haichataspa, Spitama. Alors, maintenant, l'autre clan, Frashaushtra, va avec les Ardras. Nous parlons aussi du mot Ardra. Donc, un impératif, deuxième personne du singulier, deuxième personne du singulier. Et Jamaspa-Vugva occupe la dernière place de l'énumération, comme il est normal. Son nom est aussi attesté ici au pluriel, mais à la deuxième personne du pluriel. Je veux vous faire entendre, vous, les Jamaspa-Vugva. Je veux vous faire entendre. Donc ici, très clairement, un récitant qui dit « je » s'oppose à une série de personnes à qui, à l'exception de Vishtaspa, mentionné à la troisième personne, il dit « tu » ou « vous » s'ils sont plus nombreux. L'Agatha 51, la quatrième gatha qui ne comporte qu'un chapitre, est aussi extrêmement complexe. Il est beaucoup plus difficile de se livrer à une analyse détaillée avec une gatha qui ne comporte qu'un chapitre parce que la situation de l'énumération des noms propres à l'intérieur de l'économie structurale de la gatha est inanalysable, bien entendu, le texte est trop court. Mais ici aussi, vous verrez jouer d'une certaine façon le même jeu. D'une manière générale, toutefois, il s'agit de troisième personne du singulier. Dans la gatha Vohukshatra, lorsqu'il est question de Zarathustra, dont nous prenons, si vous voulez bien, nous commencerons avec la strophe 15. Donc ici, il Zarathustra, à la troisième personne. Excusez-moi, je crois que je suis... oui, il Zarathustra, à la troisième personne, c'est correct. Dans la 16e strophe, il Vishtaspa, le Kavi Vishtaspa, parvient par les chemins de la bonne pensée, troisième personne. Alors, il y a peut-être un nous, mais il se trouve à l'intérieur d'une phrase secondaire, l'expression d'une idée particulière, une idée qu'a eue Vishtaspa, et lorsque l'on donne le contenu, la teneur de cette idée, on introduit dedans un pronom de première personne du pluriel, mais on ne peut pas en tenir compte. Enfin, dans la 17e strophe, Frashaushtra est mentionné à la troisième personne du singulier. Donc, Frashaushtra montre à la bonne Daina la forme que j'admire. Moi, pronom de la première personne du singulier. Troisième, première, comme d'habitude. Première du récitant, troisième de la personne nommée. 16e, Jamaspa a choisi cette idée. Il a choisi cette idée. Et puis, dans le dernier vers, qui est une indépendante, « Donne-moi, ô Ahura ». Donc, troisième personne de la parole mentionnée, première personne du récitant. Voilà. Je vous invite, Yasna 53, nous l'avons déjà commencé, il est uniformément à la troisième personne du singulier également. Et le nom de Zarathustra est mentionné de façon marginale parce que, comme nous l'avons vu lors des leçons de l'année dernière, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Le Yasna 53 est quelque chose d'un peu particulier, puisqu'il s'agit probablement d'une sorte de morceau de théâtre. Nous allons y faire allusion assez vite. Voilà, je vous invite à dédramatiser le débat. Lorsqu'il est question d'énumérer des noms propres, ce n'est tout de même qu'une poignée de strophes dans les 250 strophes des Gatha, eh bien, le point de vue des personnes grammaticales est changeant. C'est sa caractéristique même. Ne pour pas dire, attention, ici, Zarathoustra ne peut pas parler, ou c'est toujours lui qui parle en restituant un pronom de la première personne, ça ne doit pas être la manière que nous avons, que nous pouvons adopter pour envisager les choses. Mais nous avons une manière de... on parle à des hommes et on leur parle d'une manière changeante. La seule chose que je ne peux pas savoir, parce que qu'est-ce que ça donne dans la réalité, est-ce que cette variabilité est polyphonique ou pas ? Est-ce que peut-être ce sont d'autres personnes prennent la parole ? Puis il y a la grande question, qui ai-je ? Qui ai-je ? Son nom n'est pas nécessairement un nom mentionné. Personnellement, je vous livre, mais ici, j'en suis réduit à des conjectures. Je préfère le prévenir, je ne vous propose pas une conclusion ferme. Mais ceci devrait nous rappeler à tous ici, parce que nous en avons parlé ensemble durant les dernières années. Ça nous rappelle tout de même une sorte d'échange verbal qui se produit lorsque les sacrifiants vont entrer dans l'exercice de leur activité. Nous avons vu ça à propos du dieu Srausha dans les Brahmanas. Il y a une sorte d'exhortation que les récitants s'adressent l'un à l'autre, à faire quelque chose, à remplir leur fonction, à entreprendre enfin l'activité pour laquelle ils sont rassemblés et pour laquelle ils sont investis, c'est-à-dire un sacrifice. Bon, cela ressemble à ça. Nous pensions un peu ça, Pirard et moi, dans notre traduction, mais pas jusqu'au bout. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons traduit un mot « ya » comme « appel ». C'est un peu peut-être une réminiscence de service militaire. On fait l'appel des sacrifiants. On fait l'appel des sacrifiants. C'est peut-être cela. Mais en tout cas, c'est un groupe humain qui intervient dans la réalité d'un rite qui va se produire. Alors, qui sont-ils ? Ça, c'est la deuxième question que nous allons nous poser à propos de ce matériel. Qui sont ? Est-ce que l'on peut définir la fonction des hommes dont le nom est mentionné ? Dans une certaine mesure, oui. Et nous allons entreprendre cette étude-là, si vous voulez bien. Je crois que nous devons envisager, pour le groupe humain rassemblé dans les Gathas, Trois registres de désignation. D'abord, il y a une sorte de titre qui leur colle à la peau, qui les définit lors même que leur nom est mentionné. Il intervient au contact de leur nom. De manière parfois peut-être indirecte et pas de manière systématique. Alors, c'est en tout cas vrai pour les trois noms, je vais dire permanents, les noms permanents, c'est-à-dire Zarathoustra, Vishtaspa et Phrashaoustra. Jamaspa, déjà, non, il n'y a pas de titre qui semble le caractériser, mais il n'est mentionné qu'une fois au singulier, n'oublions pas. Quant à d'autres personnages éventuels, leur cas est particulier et il faut l'envisager autrement. Alors, Zarathoustra, selon un texte qui ne fait pas partie de l'énumération des noms propres, le Yasna, deux strophes, Yasna 50, 5 et 6, Yasna 50, 5 et 6, lui attribue un titre, et ce titre est Mantran. C'est un adjectif secondaire. Ça signifie que c'est un deuxième suffixe. C'est un suffixe qui intervient sur un nom déjà primitivement suffixé. C'est un mot que les sanskritistes, tous ceux parmi vous qui sont intéressés par la civilisation indienne, connaissent bien. Ce terme de base en sanskrit, c'est le mantra. Donc, mantran est la forme dialectale iranienne de ce qui est en sanskrit classique. Le mot n'apparaît pas dans le Rig Veda. Mantrin, qui s'est spécialisé avec le sens de conseiller, je le sais bien. Mais nous devons, nous, rester attentifs au sens de base. Littéralement, c'est celui qui a les mantras. Celui qui a les mantras. Un adjectif secondaire, possessif, comme celui-là, établit toujours un rapport vague de possessivité. Que veut dire avoir les mantras ? Bon. Est-ce que cela veut dire qu'il en est l'auteur ? Pas nécessairement. Ça peut aussi, il peut avoir la charge de leur récitation. Il y a quelques raisons de le penser. Donc, le seul titre que Zarathoustra porte de manière évidente dans les gathas, c'est celui-là. Vous me direz, oui, mais ce n'est pas dans l'énumération des noms propres. Il y a quand même un détail curieux. Peut-être pourrait-on reprendre les strophes de l'énumération des noms propres de la première gatha du Yasna 28, si c'est possible. Eh bien, dans le Yasna 28, le nom de Zarathoustra est mentionné dans la strophe 6, la sixième, Zarathoustra, or, regardez, le nom du mantra est attesté dans la strophe qui précède et il est attesté dans la strophe qui suit, dans le dernier vers, dans le dernier hémistiche du dernier vers de la septième strophe. Donc, il y a une sorte de répétition. N'oublions pas que le chapitre a 11 strophes. Zarathoustra est mentionné dans ce qu'on appelle en rhétorique l'omphalos, c'est-à-dire la strophe centrale. La strophe centrale, c'est la sixième, dans un ensemble de 11 strophes. Or, la sixième strophe est entourée de deux strophes qui mentionnent le nom mantra. C'est une allusion à son titre de mantra. On peut le comprendre comme ça. C'est indirect, mais on peut le comprendre comme ça. C'est le titre qu'il porte dans les gathas. Nous pouvons considérer, je crois, sans abus, que c'est le titre officiel que dans ce plus vieux document... Masdéen connu, n'est-ce pas ? C'est le titre porté par Zarathoustra. Alors, l'autre, le Kavi Vishtaspa, ben, c'est Kavi, bien sûr. Mais c'est un mot bien difficile que Kavi. Vous savez qu'on s'est fondé sur ce mot-là pour imaginer, pour poser, ou plutôt pour présupposer, que Vishtaspa était un roi. Parce qu'il est le dernier dans l'Avesta récent et dans la littérature ultérieure. Il est le dernier d'une série de 9 personnages qui... Bon, c'est un peu le cas d'Awa Mazda. Hein, Mazda est son nom, puis il y a une sorte de titre qui est Awa, qui porte le titre de Kavi. Sont-ils des rois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il semble avoir, en tout cas, il dirige des armées. Il dirige des armées, même peut-être déjà dans l'Avesta récent, en tout cas dans l'épopée persane ou dans la littérature moyen-perse. Vishtaspa n'est pas apparenté à ses prédécesseurs. C'est aussi quelque chose qui rend le problème de son ascendance paternelle un peu difficile, et qui semble d'ailleurs un peu bricolé dans l'Avesta récent. Il n'est pas en tout cas le descendant génétique du Kavi qui le précède. Mais le mot Kavi est un curieux mot en soi. C'est un poète dans le Rig Veda. Le Kavi védique, c'est la même forme, hein, sauf orthographié d'une manière avec un V au lieu du double U que nous avons adopté pour reproduire la graphie. Donc, un Kavi, c'est un poète. Un poète inspiré, hein, un poète qui traite des sujets religieux. Il n'y a pas de trace de cela dans l'Avesta. Dès les gathas, le Kavi est ambigu. Bien sûr, Vishtaspa est un personnage positif. Il occupe le second rang de l'énumération. Il a peut-être un lien de famille avec Zarathoustra. Mais les Kavis, en général, les Kavis sont, eux, des personnages, ce sont des adversaires. Ce sont des personnages qui sont maudits. et bien des interpellations de noms propres, bien des énumérations de noms propres sont précédées d'une strophe qui condamne les Kavis au pluriel et d'autres personnages religieux probablement qui sont les Karapanes, etc. Hein? Donc il y a une ambiguïté dès les Gathas sur la personnalité de ceux qui portent le titre de Kavi. Un seul trouve grâce, un seul est valorisé, c'est Vishtaspa. Et puis on pourrait poursuivre l'histoire du mot dans les langues iraniennes, n'est-ce pas? Kai, dans certains les textes manichéens, c'est un géant. C'est un géant. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un poète, c'est un géant. Donc c'est un terme extrêmement difficile à interpréter et dont le sens a certainement varié au cours des temps. Nous avons constaté à quelques reprises, surtout au séminaire, que dans certaines variations de vocabulaire vis-à-vis du védique, que l'on considère comme particulièrement caractéristique de la différenciation indo-iranienne, des langues indiennes d'une part, des langues iraniennes d'autre part, nous avons constaté qu'assez souvent, le sens gathique était resté le sens védique, dans beaucoup de cas. Je pense au mot gaucha, c'est pas gaucha qui est le nom de l'oreille, qui est le nom d'une façon, pas, mais dans les langues iraniennes, alors que ça se réfère au fait de faire du bruit dans les langues indiennes, il y a donc une inversion entre la production et la réception. Hein. Dans les gathas, il est très probable que gaucha signifie encore le bruit. Signifie encore le bruit. Il y a comme une sorte de conservatisme profond, qui est peut-être un conservatisme dû à leur grande antiquité, hein, du texte gathique, mais il faut toujours, dans le cas des gathas, il faut malgré tout tenir compte toujours d'une certaine manière du sens védique. Il ne faut pas adopter immédiatement le sens iranien. Il est possible qu'on soit encore resté près du sens, très près du sens védique. Je pense à Gatou. Hein. Gatou, par exemple, aussi, je vous donne un exemple parce qu'il est très facile, il est sûr aussi. Le mot Gatou qui est formé sur un verbe qui signifie aller, le mot ga, hein, le verbe ga, Gatou. Eh bien, c'est purement statique dans les langues iraniennes. Ça veut dire l'emplacement, l'endroit. L'endroit qui ne bouge pas, n'est-ce pas ? Et en moyen perse aussi, ga, etc. Bon, c'est l'emplacement. Or, c'est formé sur le verbe aller. Eh bien, la seule attestation de ga tout dans les gata, c'est dans la première, d'ailleurs, dans le premier chapitre, le Yasna 28, ça est resté l'accès. L'accès, l'endroit par où on peut entrer dans quelque chose. Donc, il y a un conservatisme du sens aussi qui est tout à fait isolé, il est devenu tout à fait isolé dans le concert des langues iraniennes. Nous l'avons de cette façon-là. Donc, Kavi, est-ce que cela désigne Vishtaspa comme un poète ? Peut-être est-ce un poète inspiré. Hein ? C'est une hypothèse qu'il faut malgré tout envisager. Or, le titre de Kavi est décerné dans les énumérations de noms propres, dans 3 énumérations sur 5. 3 sur 5. Hein. C'est plus clair et plus insistant que Mantran. Alors, Frashaushtra, une fois, dans le Yasna 28.8, on lui accole le titre de Nar. Nar. En principe, homme. Homme mâle, dont on fait parfois glisser le sens, parfois l'homme mâle, mais aussi l'homme qui a un certain statut. Donc, certains traduiraient par seigneur.
Seigneur. Le chameau qui marche en avant, le nar.
Nar. Oui. Nar, non. Non, non, c'est le nom de l'homme. C'est le grec aner. C'est le grec aner. Alors, c'est assez curieux. Vous savez, la traduction que vous trouverez dans. Sur l'exemplier qui vous a été donné, reproduit. Nous avons pensé à un moment donné considérer qu'il y avait 3 personnages, dont quelqu'un qui s'appelait Nar. Je ne pense plus. Je crois qu'il faut dire le Nar Frashaushtra. Il faut voir que cette appellation d'homme Nous l'avons l'an dernier rencontré dans un cas très particulier. Souvenez-vous, dans le moment sacrificiel de la première gatha, n'est-ce pas ? Eh bien, brutalement, lorsque vient le moment du sacrifice sanglant, l'acte qui peut être celui du sacrifice sanglant, bien sûr, mais qui est surtout celui d'offrir le résultat de l'immolation au feu rituel, celui-là porte le nom de Narspenta, l'homme faste, pas, parce que naturellement, sa nature humaine, sa nature virile, peut-être sa nature de chef social, a été transcendée en autre chose que traduit Spenta, par la fonction qui consiste à verser la graisse animale dans le feu. Alors, ici aussi, peut-être y a-t-il référence dans ce nard à une fonction sacrificielle. Alors, voilà nos trois protagonistes, hein, les plus fréquemment cités, Zarathoustra, Vishtaspa, Phrashaustra, bien, les voilà définis. Ils sont définis par des mots dont nous ne comprenons pas bien la portée pour des raisons diverses et que j'ai voulu vous exposer. Le rapport au mantra pour Zarathoustra, la qualité de Kavi pour Vishtaspa et pour Phrashaustra, peut-être, pas une seule fois malheureusement, hein, cette référence à sa nature humaine, virile et peut-être de son importance sociale. Alors, puisque nous faisons l'hypothèse qu'il s'agit de sacrifiants, nous allons voir qu'un certain nombre de désignations, comment dit-on le sacrifiant ? C'est toute la question des appellations de la prêtrise. Nous avons débroussaillé la situation dans l'Avesta récent au cours des années qui viennent de passer. Et nous avons vu que la prêtrise, je vais vous rappeler ça avant de vous laisser, parce que l'heure sera passée, nous repartirons dans les gathas plus tard. Il y a trois niveaux de désignation des sacrifiants dans l'Avesta récent. Le prêtre dans l'Avesta récent est une réalité sociale. Il y a une caste de prêtrise, il y a des prêtres professionnels. Leur nature et leur rôle social est d'être prêtre, quoi qu'ils fassent. Il y a une caste cléricale. Bien, le nom, c'est Atravan. Je vais noter, au-delà des analogies que le mot a subies, je vous donne la forme de base. Ah, qui n'existe plus, hein, mais voilà. Ataurvan. Ça, c'est le prêtre. C'est l'homme qui, par fonction sociale, qui, par sa naissance, est un prêtre. Le prêtre va officier. Il va officier dans un sacrifice. Bon. Dans un sacrifice tel que le présente l'Avesta récent, il y a 8 prêtres. Il y a 8 prêtres officiants. Nous connaissons fort. Ils portent un nom qui correspond à la fonction qu'ils vont avoir dans le sacrifice. Bah, je vais simplement vous rappeler le nom de la fonction principale, c'est celle du zautar, le hotar indien, c'est-à-dire celui qui fait les puisées de liquide. Bah. Mais, comme j'y ai insisté fréquemment, cela ne veut pas dire le prêtre. C'est une fonction sacrificielle. C'est celui des atarvan qui a été chargé ponctuellement dans le sacrifice rendu hic et nunc de diriger les opérations. C'est le directeur du sacrifice. Indien Hotar. Donc il y a une véritable concordance indo-iranienne à cet égard. Ce n'est pas le prêtre par sa caste, c'est le prêtre par sa fonction sacrificielle. Et puis, quand ce prêtre en charge du sacrifice a accompli un certain nombre d'opérations que nous avons analysées il y a 2 ans, hein, il a bu un peu de haouma, il a désigné sa cible sacrificielle, il a fait le sacrifice symbolique de sa personne physique, eh bien, il devient autre chose, il devient saushyant. Ça, c'est le prêtre dans sa fonction sacrée. Il a acquis sa personnalité sacrificielle. Sa personnalité initiale a été transformée par les opérations préliminaires du sacrifice et il va mener le sacrifice à bien. Tous les officiants sont réunis dans cette appellation. Quelle que soit leur spécialité. Voilà la situation de l'Avesta récent. Le prêtre est une réalité sociale, une réalité sacrificielle, une réalité sacrée, et tout cela s'emboîte. Maintenant, qu'en est-il dans les gathas ? Eh bien, à suivre. Merci beaucoup.